Chapitre 18. Montez le reste de mes affaires, ordonna Pris à J.R. Isidore. Surtout le récepteur télé pour que nous puissions écouter l'annonce de Buster.
Oui,
approuva Irmgard Beatty, les yeux aussi brillants que ceux d'un martinet à aigrette.
Nous avons besoin de la télé.
Ça fait longtemps que nous attendions ce moment et ça ne va plus tarder à présent.
La mienne capte la chaîne gouvernementale, fit Isidore.
Dans un coin de la pièce, assis au fond d'un fauteuil profond comme s'il avait l'intention d'y rester à jamais, comme s'il y avait pris pension, Roy Beatty s'autorisa un renvoi sonore, puis
« C'est l'ami Buster et ses amis que nous voulons regarder, Is. À moins que vous ne préfériez que je vous appelle J.R. Peu importe. Allez nous chercher ce récepteur. »
Isidore partit donc seul dans le hall vide rempli d'échos en direction de l'escalier. Le puissant parfum du bonheur s'épanouissait encore en lui, l'impression pour la première fois de sa terne existence d'être utile.
« Il y a des gens qui dépendent de moi à présent, »
exultait-il en descendant péniblement les marches rongées par les retombées.
« Et ça va être bien de revoir l'ami Buster à la télé, au lieu de me contenter de la radio de la camionnette. D'autant,
se rappela-t-il,
qu'il va faire ce soir sa sensationnelle révélation soigneusement documentée. Grâce à Pris, Roy et Irmgard, je vais donc connaître ce qui va probablement être la plus importante nouvelle de ces dernières années. Ça alors !»
L'existence de J.R. Isidore avait vraiment pris un tournant positif. Une fois dans l'ancien appartement de Pris, il débrancha la télé et détacha l'antenne. Le silence se fit aussitôt, pénétrant. Isidore sentait ses bras s'estomper. En l'absence des Beatty et de Pris, il avait désormais l'impression de se dissoudre, de devenir aussi inerte que le récepteur qu'il venait de débrancher.
« Il faut être avec d'autres gens pour vivre un tant soit peu. Avant qu'ils ne viennent ici, je pouvais encore le supporter de rester seul dans cet immeuble. Mais tout a changé désormais. Impossible de faire machine arrière. » On ne peut pas revenir à la solitude après avoir goûté à la compagnie des gens. »
Idée qui eut pour effet de l'emplir de panique.
« Je dépends d'eux à présent. Dieu merci, ils sont restés. »
Deux voyages allaient être nécessaires pour transporter les possessions de Pris à l'étage au-dessus. Isidore décida de monter la télé en premier, puis ce serait au tour des valises et des vêtements restants. Quelques minutes plus tard, les doigts endoloris, il déposait l'appareil sur la table basse. Pris et les Beatty le regardèrent faire impassiblement.
« On a un bon signal dans l'immeuble, »
haleta-t-il tout en branchant le récepteur et son antenne.
« Quand je recevais encore l'ami Buster et c'est
« Contentez-vous d'allumer le poste, »
fit Roy Beatty, « et arrêtez de parler. »
Le spécial s'exécuta, puis se précipita à la porte.
Un aller-retour supplémentaire va suffire. »
Il s'attarda, se réchauffant auprès du feu de leur présence. « Parfait, » fit Pris d'une voix distante. Isidore se remit donc en route.
« Je crois qu'ils sont plus ou moins en train de m'exploiter. »
Mais peu lui importait. Ça reste quand même agréable d'avoir des amis. Une fois descendu à l'étage inférieur, il rassembla les vêtements de Pris, en entassa l'intégralité dans une valise, puis repartit à grand-peine dans l'escalier. Quelque chose de petit se mouvait dans la poussière sur une marche au-dessus de lui.
Il laissa aussitôt tomber les valises pour extraire de sa poche le petit flacon de plastique que, comme tout un chacun, il avait toujours sur lui pour pareille perspective. Une araignée, quelconque, mais vivante.
Les mains tremblantes, il l'introduisit doucement dans la bouteille qu'il referma aussitôt en vissant soigneusement le bouchon perforé de trous d'épingle. Il marqua une pause devant la porte de son appartement afin de reprendre son souffle.
« Oui, mes amis, l'heure est venue. Vous regardez l'ami Buster qui vous espère tous aussi impatient que lui de partager la découverte qu'il a faite grâce au travail de longue haleine de sa prestigieuse équipe de recherche. » Et ils y ont passé des semaines, croyez-moi. Ha ha, mes amis ! Le moment est arrivé !»«
J'ai trouvé une araignée !» fit Isidore.
Les trois androïdes levèrent un instant les yeux de l'écran pour le regarder. « Voyons ça !» dit Price tout en tendant la main.
« Buster est en train de parler !»
intervint Roy Beatty. « Je n'avais jamais vu d'araignée. » Price mit ses mains autour du flacon, observant la créature qui s'y trouvait. « Toutes ses pattes ? Pourquoi a-t-elle besoin d'autant de pattes, J.R. ?»«
C'est dans leur nature, » répondit Isidore.
Son cœur battait la chamade. Il avait du mal à respirer.
« 8 pattes !»
Price se leva. « Vous savez à quoi je pense, J.R. ?»«
Je pense qu'elle n'a pas besoin de toutes ses pattes. »«
8 !»
s'enquit Irmgard Beatty.
« 4 devraient amplement lui suffire. » « Voyons voir ce qu'elle fera si on lui en coupe la moitié. »
Et d'ouvrir impulsivement son sac pour en sortir une paire de ciseaux à ongles pointus qu'elle passa à Price. Une étrange terreur s'empara alors de J.R. Isidore. Price transporta le flacon médicinal dans la cuisine et s'installa à la table où J.R. avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. Après en avoir retiré le couvercle, elle en fit tomber l'araignée.
« Elle ne pourra probablement plus courir aussi vite. » Mais il n'y a rien à attraper dans le coin, de toute façon. Elle va juste mourir un peu plus tôt.
Elle tendit la main vers les ciseaux.
« S'il vous plaît, » dit Isidore.
Price leva sur lui des yeux interrogateurs.
« Elle vaut quelque chose ?
Ne la mutilez pas !»
l'implora-t-il d'une voix sifflante. Elle lui coupa aussitôt une patte. L'ami Buster était en train de parler à l'écran, dans le séjour.
« Jetez un œil à cet agrandissement d'un morceau de l'arrière-plan. C'est le ciel que vous avez l'habitude de voir. Je vais demander à Earl Parameter, le chef de mon équipe de recherche, de vous exposer la découverte proprement renversante qu'ils ont faite. »
Price détacha une autre patte, tout en retenant l'araignée du bord de la main. Elle souriait.
« Soumis à une rigoureuse étude en laboratoire, » disait une voix différente. « Les agrandissements vidéo révèlent que la toile de fond grise du ciel et la lune diurne devant lesquelles Mercer se déplace ne se trouvent pas seulement sur Terre. Elles sont artificielles. »«
Tu manques tout !»
lança anxieusement Irmgard à l'adresse de Price. Se précipitant à la porte de la cuisine, elle découvrit ce que celle-ci avait commencé à faire.
« Oh, tu feras ça après »
fit-elle d'un ton enjôleur. « Ce qu'ils sont en train de raconter est tellement plus important, ça prouve que tout ce en quoi nous croyons... »«
Silence !»
fit Roy Beatty.
« Était vrai !»
conclut Irmgard. La télé continuait.
« La lune est peinte. Sur les agrandissements, vous pouvez actuellement en voir un à l'écran, on remarque les coups de pinceau, et tout porte à croire que les herbes sèches, le sol stérile, jusqu'aux pierres que des gens invisibles jettent sur Mercer, sont pareillement factices. » Il est tout à fait possible que les pierres soient en fait des morceaux de plastique mou totalement inoffensifs.
« Autrement dit !»
l'interrompit alors l'ami Buster.
« Wilbur Mercer ne souffre pas du tout !»«
En fin de compte, monsieur Buster, » poursuivit le chercheur, « nous sommes parvenus à débusquer un ancien spécialiste des effets spéciaux à Hollywood, un certain Wade Corto, qui affirme catégoriquement, d'après ses longues années d'expérience, que le personnage de Mercer pouvait très bien être qu'un figurant traversant un plateau de tournage. Corto est même allé jusqu'à déclarer qu'il reconnaissait le studio. Il aurait été utilisé par un cinéaste mineur à présent à la retraite avec lequel Corto a travaillé à plusieurs reprises il y a des décennies.
« Donc, » reprit Buster, « d'après Corto, ça ne fait pratiquement aucun doute. »
Price avait à présent coupé 3 pattes à l'araignée, qui se traînait misérablement sur la table de la cuisine, en quête d'une quelconque échappatoire. En vain.
« En toute franchise, nous avons pris Corto au mot, »
reprit le chef de recherche de sa voix aride.
« Nous avons consacré de nombreuses heures à examiner les photos professionnelles de figurants autrefois employés par la défunte industrie du cinéma de Hollywood. Et vous avez découvert... »«
Écoutez ça !»
fit Roy Beatty. Irmgard fixait l'écran des yeux, quant à Price, elle avait cessé de mutiler l'arachnide.
« L'examen de milliers et de milliers de photos nous a permis de localiser un très vieil homme du nom d'Al Jarry, qui a joué quantité de petits rôles dans des films d'avant-guerre.
nous avons envoyé une équipe de chercheurs à son domicile, à East Harmony, dans l'Indiana. Je vais laisser un des membres de ladite équipe nous décrire ce qu'ils ont trouvé là-bas. »
Silence, puis une nouvelle voix tout aussi prosaïque.
« La maison de Lark Avenue à East Harmony tombe littéralement en ruine. Elle est située en périphérie de la ville dans un secteur presque totalement inhabité. Al-Jari nous a aimablement invités à entrer, puis à nous installer dans un séjour confiné, rempli de tropies à moitié moisies. Par des moyens télépathiques, j'ai sondé l'esprit brumeux, encombré de souvenirs inutiles de M. Jari, qui se trouvait assis en face de moi.
« Écoutez !» répéta Roy Beatty, en équilibre sur le bord de sa chaise, comme prêt à bondir.
« J'ai découvert, »
poursuivit le technicien,
« que le vieil homme avait bel et bien joué dans une série de courts-métrages pour un producteur qu'il n'a jamais rencontré. Ainsi que nous l'avions supputé, les pierres étaient effectivement composées de caoutchouc synthétique. Le sang versé était du ketchup et... »
L'homme gloussa.
La seule souffrance que M. Jari a dû endurer fut d'avoir à passer une journée entière sans une goutte de whisky.
« Al-Jari !»
Le visage de l'ami Buster réapparut à l'écran.
« Vous m'en direz tant ! Un vieillard qui, même dans sa jeunesse, n'a jamais rien accompli qui soit digne de respect. Al-Jari a tourné toute une série de films pour quelqu'un dont il ignorait, et ignore encore, l'identité. » Les adeptes du mercérisme ont coutume de dire que Wilbur Mercer n'est pas un être humain. Qu'il serait en fait quelque entité supérieure, archétypale, peut-être venue d'une étoile lointaine. Eh bien, en un sens, cette assertion s'est révélée correcte. Wilbur Mercer n'est pas humain pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas. Le monde dans lequel il accomplit son ascension n'est qu'un minable studio d'Hollywood qui a disparu depuis des années dans la tropie. Mais qui, dans ce cas, a répandu ce canular dans le système solaire tout entier? Réfléchissez-y un instant, mes amis!
« Nous ne le saurons peut-être jamais, » murmura Irmgard.
« Nous ne le saurons peut-être jamais, »
fit l'ami Buster.
Comme nous ne comprendrons peut-être jamais quelles étranges motivations se cachent derrière cette escroquerie. Oui, mes amis, une escroquerie. Le mercérisme est une escroquerie.
Je crois que nous le savons tous,
enchérit alors Roy Beatty.
C'est évident. Le mercérisme est apparu.
Mais réfléchissez à ça, poursuivait Buster. Demandez-vous ce que provoque ce mercérisme. Eh bien, s'il faut en croire ces nombreux pratiquants, l'expérience fusionne...
C'est cette empathie que possèdent les humains,
intervint Irmgard Beatty.
Des hommes et des femmes partout dans le système solaire, en une seule et unique entité. Mais une entité manœuvrable par la prétendue voix télépathique de Mercer. Écoutez bien ça, un aspirant dictateur ambitieux, un nouvel Hitler pourrait...
Non. « C'est cette histoire d'empathie, » répéta Irmgard avec vigueur. Les poings serrés, elle alla rejoindre Isidore dans la cuisine. « N'est-ce pas un moyen de démontrer que les humains peuvent faire des choses dont nous sommes incapables ? Parce que, sans Mercer, il ne nous reste plus qu'à vous croire sur parole à propos de toute cette histoire d'empathie. Comment va l'araignée ?»
Elle se pencha par-dessus l'épaule de Pris. Celle-ci était en train de couper une nouvelle patte de l'animal. « Plus que quatre. » Elle lui donna un petit coup. Elle ne veut plus bouger. Elle le pourrait pourtant. Roy Beatty fit son apparition dans l'embrasure de la porte, le souffle lourd, le visage empreint d'une expression satisfaite.
C'est fait. Buster l'a clamé haut et fort, et presque tous les humains du système solaire l'ont entendu. Le mercérisme est une escroquerie. Toute cette histoire d'empathie est une escroquerie.
Il s'approcha pour observer l'araignée. Elle ne veut même pas essayer de marcher, dit Irmgard.
Moi, je peux la faire marcher.
Après avoir produit une boîte d'allumettes, Roy Beatty en alluma une, qu'il approcha peu à peu de l'araignée jusqu'à ce que celle-ci se décide à bouger tant bien que mal. J'avais raison, fit Irmgard. Je vous avais bien dit qu'elle pouvait marcher juste avec quatre pattes. Elle leva des yeux interrogateurs en direction d'Isidore. « Qu'est-ce qu'il y a ?
Elle lui toucha le bras. « Vous n'avez rien perdu, nous vous paierons le prix que donne le... Comment l'appelez-vous déjà ? Ah oui, le Sydney. N'ayez pas l'air si triste. Vous ne trouvez pas ça incroyable, ce qu'ils ont découvert à propos de Mercer, toutes ces recherches ? Eh, répondez-moi !» Elle lui secoua le bras d'inquiétude. « Il est contrarié, » fit Pris, « parce qu'il a une boîte à empathie dans la pièce d'à côté. Vous vous en servez, J.R. ?»«
Bien sûr qu'il s'en sert, » dit Roy Beatty. « Ils le font tous. Ils le faisaient, en tout cas. Tout cela va peut-être leur ouvrir les yeux. »
« Je doute que ça mette un terme au culte de Mercer, » objecta Pris. « Mais en cet instant même, il doit y avoir pas mal d'humains malheureux. » Puis, à l'adresse d'Isidore, « Ça fait des mois qu'on attendait ça. On savait tous que ça allait arriver, ce coup d'éclat de Buster. » Elle hésita, puis « Après tout, pourquoi pas ? Buster est l'un des nôtres. » « Un androïde, » expliqua Irmgard. Et personne ne le sait. Aucun humain, je veux dire. »
Pris entreprit de couper une nouvelle patte d'araignée. Sans crier gare, John Isidore la repoussa violemment, souleva la créature mutilée, l'emporta jusqu'à l'évier et l'y noya, emportant par là même tous les espoirs qu'il portait en son fort intérieur, aussi vite que l'araignée.
« Il est vraiment bouleversé, » fit Irmgard d'une voix nerveuse. « Ne faites pas cette tête-là, J.R. Et pourquoi ne dites-vous plus rien ?»
Elle se tourna vers Pris et son époux.
« Ça m'inquiète terriblement de le voir dans cet état, planté devant l'évier sans dire un mot. Il n'a pas ouvert la bouche depuis que nous avons allumé la télé. »«
Ça n'a rien à voir avec la télé, » comprit Pris.
« C'est l'araignée. »« C'est bien ça, Isidore ?»«
Il s'en remettra, » lança-t-elle à l'adresse d'Irmgard, qui était passé dans la pièce d'à côté pour éteindre le poste. Roy Beatty semblait s'amuser follement.
« Tout est fini, Ise. Le mercérisme, je veux dire. »
Avec ses ongles, il parvint à récupérer le cadavre de l'araignée dans l'évier.
C'était peut-être la dernière araignée. La dernière araignée vivante sur Terre.
Il réfléchit.
Auquel cas... Tout est fini pour les araignées aussi.
Je ne me sens pas bien,
dit Isidore avant d'aller chercher une tasse dans le placard de la cuisine. Après être resté planté là un bon moment à la tenir, combien de temps exactement il n'aurait su le dire, il demanda à Roy.
Est-ce que le ciel derrière Mercer est vraiment peint ? Artificiel ?
Vous avez vu les agrandissements à l'écran, les coups de pinceau.
Ça ne signifie pas la fin du mercérisme. Ces trois androïdes ont quelque chose qui ne va pas. Quelque chose de terrible. L'araignée, c'était peut-être la dernière araignée sur Terre. Comme l'a indiqué Roy Beatty, et elle a disparu, tout comme Mercer.
Il vit alors la poussière et la ruine se déployer de toutes parts dans l'appartement, entendit venir l'atropie, le bouleversement ultime de toute forme, l'absence qui allait tout engloutir. Elle grandissait autour de lui, qui restait désespérément accroché à sa tasse vide. Les placards de la cuisine se craquelèrent, puis volèrent en éclats, et il sentit le sol céder sous ses pieds. Il tendit la main pour toucher le mur. Sa main en brisa la surface. Des particules grises s'en détachèrent, des éclats de plâtre qui ressemblaient à la poussière radioactive de l'extérieur. Isidore s'assit à la table. Les pieds de sa chaise plièrent tels des tubes évidés corrompus. Se relevant en hâte, il reposa la tasse et tenta de reformer la chaise, de lui redonner sa forme normale. Elle partit en morceaux entre ses mains. Les vis ayant auparavant raccordé ses diverses parties s'en arrachèrent et tombèrent par terre. Sur la table, la tasse en céramique se fendilla,
se couvrit d'un réseau de fines craquelures semblables aux ombres d'une vigne, puis un éclat se détacha de son rebord, révélant la matière brute, non vernissée.
Qu'est-ce qu'il fait ?
La voix d'Irmgard Beatty lui semblait incroyablement distante.
Il est en train de tout casser. Isidore, arrêtez.
Ce n'est pas moi.
Il marcha tant bien que mal jusqu'au séjour pour y être seul. Debout, à côté de ce qui restait du lit, il fixait les murs jaunâtres constellés de toutes les petites taches brunes que des insectes disparus depuis y avaient laissées. Et de nouveau, il songea au cadavre mutilé de l'araignée.
Tout est si vieux ici. Ça fait bien longtemps que tout a commencé à tomber en ruine. Et ça ne va pas s'arrêter. Le cadavre de l'araignée a pris le pouvoir.
Des morceaux d'animaux apparurent dans la dépression causée par l'effondrement du plancher. Une tête de corbeau, des mains momifiées qui devaient avoir appartenu à des singes. Il y avait un âne un peu plus loin, parfaitement immobile, mais apparemment en vie. Au moins n'avait-il pas commencé à se détériorer. En s'approchant de lui, Isidore sentait se briser sous ses chaussures des os aussi secs que de la mauvaise herbe. Mais avant qu'il ne puisse atteindre l'âne, l'une des créatures les plus chères à son cœur, un corbeau bleu-noir tomba du ciel pour aller se percher sur le museau de l'animal.
« Ne fais pas ça !»
dit-il au volatile. Mais le bec puissant avait déjà crevé les yeux de sa proie.
« Ça recommence. Ça m'arrive à nouveau. Je vais rester là un bon moment, »
comprit-il alors,
« comme avant. Ça dure toujours longtemps parce que rien ne change jamais. Même l'atropie finit par trouver le temps long. »
Un vent sec se mit à souffler, et les monceaux d'ossements autour de lui commencèrent à partir en morceaux.
Même le vent les détruit à présent. À ce stade, juste avant que le temps ne s'arrête, j'aimerais pouvoir me rappeler comment on s'échappe d'ici.
Levant les yeux, il ne vit rien à quoi s'accrocher.
« Mère sœur, » dit-il à voix haute. « Où êtes-vous ? Je suis retombé dans le monde du tombeau. Mais cette fois, vous n'êtes pas avec moi. »
Quelque chose rampait sur son pied. Il s'agenouilla pour voir de quoi il s'agissait et n'eut aucune peine à le trouver tant ça se déplaçait lentement. L'araignée mutilée, qui avançait tant bien que mal sur ses pattes survivantes, il la ramassa. La déposa dans la paume de sa main.
Le temps,
comprit-il alors,
s'est inversé. L'araignée est de nouveau en vie. Mère sœur ne doit pas être loin.
Le vent soufflait, fracassant ce qui restait des ossements. Mais Isidore sentait la présence de mère sœur.
Viens ici, lui dit-il. « Rampe sur mon pied ou trouve un autre moyen de m'atteindre, d'accord ?»« Mère sœur. »
Puis à voix haute.
« Mère sœur !»
Les mauvaises herbes commençaient à envahir le paysage, à se frayer un chemin dans les murs de la pièce, à les pénétrer jusqu'à ce qu'elles deviennent leurs propres spores, qui enflèrent, se divisèrent, explosèrent à l'intérieur de l'acier corrompu et des débris de béton qui précédemment avaient constitué la cloison. Mais la désolation ne disparut pas avec les murs. Elle poursuivait tout le reste, à l'exception de la frêle et minuscule silhouette de Mercer. Le vieil homme faisait face à Isidore, le visage empreint de sérénité.
« Est-ce que le ciel est peint ?»
demanda Isidore.
« Ce sont vraiment des coups de pinceau qui apparaissent à l'agrandissement ?»« Oui, »
fit Mercer.
« Je ne les vois pas. »« Tu es trop près. Il faut être loin, très loin, à la manière des androïdes. »«
ils ont une meilleure perspective.
C'est pour ça qu'ils vous traitent d'imposteur ?
Je suis un imposteur. Ils sont sincères, tout comme le sont leurs recherches. De leur point de vue, je suis un vieux figurant à la retraite du nom de Al-Jari. Toutes leurs révélations sont exactes. Ils m'ont interviewé chez moi, comme ils l'ont affirmé. Je leur ai dit tout ce qu'ils voulaient savoir, sans rien leur cacher.
Même à propos du whisky ?
Mercer sourit.
Même le whisky. Ils ont fait du bon travail. À leurs yeux, les révélations de l'ami Buster étaient tout à fait convaincantes. Ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi rien n'a changé. Car tu es toujours ici. Et moi aussi.
D'un grand geste de la main, Mercer balaya l'aridité du flanc de coteau familier.
Je viens de t'arracher au monde du tombeau. Et je le ferai encore, jusqu'à ce que tu t'en lasses et décides de me quitter. Mais tu devras alors cesser de me chercher, car moi, je ne renoncerai jamais.
Je n'ai pas aimé cette histoire de whisky,
fit Isidore.
C'est dégradant.
C'est parce que tu es une personne de haute moralité. Moi pas. Je ne juge personne, pas même moi.
Mercer lui tendit une main fermée, paume vers le ciel.
Avant que je n'oublie, j'ai ici quelque chose pour toi.
Il ouvrit les doigts. Dans sa main reposait l'araignée mutilée qui avait recouvré ses pattes coupées.
Merci.
Isidore accepta l'araignée. Il s'apprêtait à dire autre chose quand une sirène d'alarme retentit.
Il y a un chasseur de primes dans l'immeuble,
gronda Roy Beatty.
Éteignez toutes les lumières. Extirpez-le de cette boîte à empathie. Il faut qu'il aille répondre à la porte. Allez, dépêchez-vous.